Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureuse pour cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire de vous proposer aujourd'hui le portrait d'un immortel. Nous allons en effet nous intéresser à Charles de Montalembert. Négligé par la mémoire française, on a peine à croire aujourd'hui qu'il fut un homme politique majeur du XIXe siècle. Il fut en effet l'un des principaux théoriciens en France du catholicisme libéral. Il défendit la liberté de la presse, la liberté d'association, soutint constamment les droits des nationalités opprimées et fut l'un des auteurs de la loi de 1850, la loi Falloux, sur la liberté de l'enseignement. Montalembert mérite donc mieux que l'ensevelissement progressif dans un oubli profond dont il se sentait déjà victime. Je vous propose donc, avec notre invitée Marguerite Castillon du Perron, de découvrir un Montalembert en son temps, un Montalembert guidé par un combat difficile, celui de Dieu et de la liberté. Marguerite Castillon du Perron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Canal Académie. Vous êtes historienne, auteure de plusieurs biographies qui font référence, parmi lesquelles je citerai la princesse Mathilde et Charles de Foucauld. Mais si vous êtes donc avec nous aujourd'hui, c'est que vous venez de consacrer une biographie à Charles de Montalembert, parue aux éditions François-Xavier de Guibert sous le titre « Montalembert et l'Europe de son temps ». Alors tout d'abord, Marguerite Castillon du Perron, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de travailler sur Montalembert ?
Eh bien, j'ai choisi de travailler sur Montalembert justement parce qu'il était oublié et que j'en avais assez d'avoir l'impression de reprendre des livres qui ont déjà été écrits, si vous voulez, après Charles de Foucauld, qui n'avait pas trop mal marché, je crois. L'éditeur voulait un livre de moi, ce qui était bien aimable de sa part. Et il m'a proposé, par exemple, de refaire l'impératrice Eugénie ou de faire Sarah Bernhardt en me disant « les femmes se vendent bien ». Et je lui ai répondu « moi, ça m'est complètement égal. Je veux surtout faire un livre sur quelqu'un avec qui je vais vivre, qui m'intéresse, et ne pas répéter ce qui a été très bien dit ». Je vais vous donner un exemple pour ça. Tout le monde écrit maintenant des livres sur le Second Empire. Eh bien, tout a été dit par Pierre de la Gorce, redit par exemple par Adrien Dansette, et il n'y a rien de nouveau à apporter. Et moi, j'aime avoir des archives nouvelles, un point de vue nouveau sur un être. Et cet éditeur, à l'époque c'était Perrin, pour des raisons variées, j'ai changé d'éditeur au bout de 10 ans de travail, cet éditeur m'a dit « je vous propose de faire Montalembert ». Et comme tout un chacun, je dois vous avouer, que je connaissais des tas de Montalembert, mais je ne voyais pas très bien qui était ce Montalembert. J'ai donc été à l'Institut, bibliothèque qui est ma favorite, parce que c'est là que j'y ai travaillé mes livres sur la Révolution française et ma princesse Mathilde tout au début. Et chaque fois que j'ai travaillé, c'était à vos côtés, dans la pièce à côté. Et j'ai lu tout ce que je trouvais sur Montalembert et je me suis dit, mais cet homme est extraordinaire. C'est, je ne vais pas employer le mot surdoué, qui est un mot très agaçant, mais c'est un des hommes les plus intelligents de son siècle. Il a connu le monde entier, il a voyagé partout, il a été accueilli dans toutes les capitales d'Europe, il a marqué son époque et moi je me mets à travailler sur Montalembert. Voilà comment les choses ont commencé.
Alors vous faisiez allusion à l'instant à une documentation nouvelle. Alors c'est vrai qu'il fut journaliste, homme politique, écrivain. Vous avez été confronté donc à une documentation très riche. Est-ce un atout ?
C'est-à-dire que les archives Montalembert étaient à La Roche-en-Brenny. Et La Roche-en-Brenny dans le Morvan où il avait acheté un château. Et alors toutes les archives les plus importantes étaient là et étaient dans la possession de Charles de Montalembert qui malheureusement est mort avant d'avoir pu lire cet ouvrage. Alors je suis entrée en relation avec eux.
Charles de Meaux, non ?
Oui, c'est-à-dire que M. de Meaux, oui, nous a un peu mis en contact, mais j'ai très peu travaillé avec M. de Meaux. C'était surtout par Emmanuel de Montalembert, qui au fond n'avait pas vraiment un travail régulier, mais qui était bibliothécaire et qui aimait énormément les livres. Pour tout dire, Emmanuel m'a prêté, je crois, 60 livres chez moi. Il avait tout sur Montalembert. Ceci dit, j'ai eu à en consulter tellement d'autres. Et alors Emmanuel de Montalembert, surtout, m'a mis en relation avec Charles et Viviane de Montalembert, qui habitaient La Roche-en-Brenny. J'y ai fait plusieurs voyages et on m'a confié toutes les archives. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans le bureau même de Montalembert, Lambert. Et même, j'ai passé 15 jours, 3 semaines, une fois au mois de juillet, seule dans le château. J'ai même failli y mourir de froid.
Alors passons-en à Charles de Montalembert, justement, plus directement. Il naît en 1810, et pas en France, mais en Angleterre.
Oui, il est né en Angleterre, et avec une mère anglaise, et comme vous l'avez vu, puisque vous avez lu mon livre, une mère assez déséquilibrée, un père émigré par la force des choses, qui était un homme charmant, mais qui n'avait pas pu donner sa pleine mesure, et il a finalement été élevé jusqu'à l'âge de 10 ans par son grand-père qui s'appelait James Forbes, qui était un être extravagant. Je dis que c'est un personnage de Dickens au début de mon livre, et je crois que c'est tout à fait ça. Mais c'est un homme qui voulait tout savoir sur tout, qui avait voyagé partout et qui s'était mis en tête de faire une encyclopédie illustrée générale de toutes les sciences et de tous les, sur tous les pays, sur toutes les productions de son temps. Et il a tout de suite décelé chez ce petit-fils une intelligence extraordinaire. Et il l'a formé à son gré jusqu'à l'âge de 9-10 ans, moment auquel il est mort d'une façon assez tragique.
Il lui inculque vraiment dès le départ, à vous lire, le goût de l'effort et du travail.
Le goût de l'effort, du travail, de l'honnêteté, une certaine rigidité due à son éducation protestante. Et alors ce grand-père Forbes était très désolé à l'idée que son petit-fils devait être catholique. Mais comme il était tellement honnête, il acceptait l'idée de devoir le rendre à ses parents pour être élevé catholiquement.
Alors après, quelle va être la formation, je dirais, de Charles de Montalembert ?
Alors Charles, quand son grand-père meurt tragiquement, rentre en France et il a d'abord des précepteurs. On le forme au point de vue catholique. Il a plusieurs prêtres qui s'occupent de lui, dont un certain abbé de la Bourdonnais. Et des prêtres très remarquables qui sont en général ceux qui se sont occupés des enfants royaux, du duc de Berry et tout ça dans le milieu court. Et donc, il est tout de suite très croyant, imbibé de religion comme du lait maternel, qu'il n'a pas eu d'ailleurs puisque sa mère était très froide.
Charles de Montalembert, petit à petit, va s'engager sur la voie journalistique. Il publie ses premiers articles dans Le Correspondant à peu près...
Dès l'âge de 18-20 ans, il rêve d'être journaliste, il rêve de rencontrer des écrivains, il hante les salons littéraires dès qu'il le peut. On le voit par exemple fréquenté chez Victor Hugo, chez Vigny, pas chez Musset parce que ce côté déjà dépravé de Musset inquiète. Mais Victor Hugo, c'est très drôle. La première fois qu'il rencontre Victor Hugo, il le trouve sur une échelle en train d'accrocher des livres sur son mur. Et puis on lui a dit que Madame Victor Hugo était très jolie. Et il la voit et il la trouve un peu commune. Et puis alors il la revoit et il s'excuse de l'avoir trouvée un peu commune en disant « Mais au fond, elle était grosse, ce qui veut dire qu'elle attendait un bébé, donc elle doit être mieux. » Et puis il y a un tel amour entre eux. C'est tellement beau, cet homme qui se voue à sa femme, à l'amour conjugal. Et alors, on est assez amusé de penser à la naïveté de ce jeune homme qui ne voyait pas du tout poindre Juliette Drouet à l'horizon, alors que les moments tragiques approchaient. Alors, il a été très marqué par l'abbé Nicole, au point de vue religieux, dans sa jeunesse. Et l'abbé Nicole était un homme très, très remarquable qui avait été distingué par le duc de Richelieu quand beaucoup de catholiques d'émigrés étaient en Russie. Et l'abbé Nicole, sous l'impulsion du duc de Richelieu, qui a fondé la ville d'Odessa en Russie, il y avait tout un groupe là, de catholiques qui ont converti toute la bonne société russe, dont Madame Swetchine, la fameuse Madame Swetchine, qui deviendra une grande amie de Montalembert. Et alors l'abbé Nicole, de retour en France, a été au fond le maître de Montalembert au point de vue philosophique et religieux. C'est lui qui choisissait ceux qui l'entouraient, parce qu'au fond son père se rendait bien compte qu'il n'avait pas la culture nécessaire après toutes les guerres, après toute la révolution, où il avait voyagé de temps tous les pays. Il se rendait compte qu'il ne faisait pas le poids pour un garçon de la qualité de Montalembert. Et l'abbé Nicole supervisait.
Surtout que le père était pas toujours présent puisqu'il était diplomate.
Il était diplomate, mais il est revenu en France et il n'a pas eu de très gros postes finalement. On vous appelait ministre ou ambassadeur, mais comme disait quelqu'un, il n'a jamais été que quand il est parti en Suède, par exemple, il avait le poste de quatrième secrétaire, vous voyez, finalement, ou quand il était à Stuttgart.
Enfin bref, donc voilà notre Montalembert qui, très jeune finalement, se veut l'incarnation d'un nouvel idéal et incarner surtout une jeunesse à la fois libérale et politique.
Oui, il est libéral dans la mesure où il a grandi avec l'horreur de l'autoritarisme et d'un homme comme Louis XIV, que son grand-père lui a inculqué. Le pouvoir absolu lui déplaît, et le modèle anglais est le modèle qu'il suivra toute sa vie. Il est pour un parlementarisme équilibré. Comme il sait qu'il sera un jour pair de France, il veut jouer son rôle dans la reconstruction de cette France qui a été entièrement détruite par la Révolution, et il voudrait travailler à la recatholiciser à côté d'autres gens, mais la recatholiciser d'une manière intelligente et ouverte, en acceptant absolument toutes les autres religions et la pensée des autres. Et c'est même très amusant de voir dans ses discours à plusieurs reprises, et c'est très nouveau pour l'époque, la manière dont il défend les Juifs en disant qu'il veut qu'un enfant juif puisse être élevé à la synagogue s'il le désire, qu'un enfant protestant puisse être élevé protestant, et que ce qu'il ne veut pas, c'est la mainmise de l'université surtout, avec un autoritarisme exagéré. Et il cherche même une entente avec l'université. Et quand il va travailler à cette loi de l'enseignement, il va y avoir des concessions mutuelle, et ce sera très équilibré finalement cette relation, car la loi s'appelle la loi Falloux, et Montalembert a fait la œuvre de modération et de modestie. Quand cette loi a été votée, Falloux était ministre, donc il avait la puissance nécessaire et le renom à l'époque suffisant pour la faire voter. Donc Montalembert s'est effacé, mais tout le texte, toute la pensée de cette loi est de Montalembert.
Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard, mais revenons donc à Montalembert et à son premier contact avec les révolutions. Dieu sait que le 19e siècle, on va en connaître plusieurs en France. Donc en 1830, Charles X est chassé du pouvoir, Louis-Philippe arrive. Est-ce que pour Montalembert, c'est justement, est-ce qu'il cautionne cette révolution? Lui qui se veut libéral, est-ce qu'il est heureux de voir la fin de la monarchie?
Eh bien, d'une certaine manière, oui, au début, parce qu'il a sa petite période, mai 68 de l'époque, je dirais. Et alors, il est fou de bonheur. Et puis, quand, un peu plus tard, quand il voit la révolte des Canuts à Lyon, il est écœuré de la façon dont un certain monde ouvrier est traité. Mais je ne peux pas dire, il faut être honnête, que c'est ce qui va le hanter toute sa vie. Le monde ouvrier n'est pas encore vraiment né. Ce qu'il veut, c'est la justice et l'ouverture et la liberté de chacun. Mais profondément, il est monarchiste, je dirais. Il est monarchiste, mais d'une monarchie ouverte. Parce que pour lui, il n'imagine pas qu'on puisse gouverner bien sans se sentir responsable devant Dieu. Donc, il pense que sans religion, on arrive obligatoirement à l'échec et, je dirais, à la pagaille. Il y a beaucoup de textes de lui dans ce sens-là. Alors, il ne veut pas imposer la religion à tout le monde, mais il souhaite quand même qu'elle soit tout au moins proposée, dirons-nous.
Alors, en 1831, le père de Charles de Montalembert meurt. Très jeune. Il n'accède pas encore à la Chambre des pairs.
Oui, parce qu'il faut avoir 25 ans et qu'il est né en 1810. Et comme il est né en 1810, et en plus, la pairie va être supprimée. Et il va être le dernier à pouvoir jouir de la pairie héréditaire. Alors, il a grandi avec cette idée qu'il serait pair. Et comme vous l'avez vu en lisant mon livre, il a cette assurance de lui-même, une certaine morgue, un certain dédain, qui font d'ailleurs que mon arrière-grand-père Victor Duruy le poursuit à coups de pied dans les cours du Collège Bourbon, ce qui m'amuse beaucoup. Mais en même temps, une fidélité en amitié, une loyauté. Et quand il est vraiment l'ami de quelqu'un, il lui dit « Je connais mes défauts, mais je veux m'en corriger, il faut me le dire. »
Tel sera le cas d'ailleurs avec deux hommes majeurs dans son existence qui sont Lamennais et Lacordaire. Vous décrivez longuement les relations entre Lacordaire et Montalembert.
Oui.
Et cette relation d'amitié justement entre les deux qui est étonnante. Mais qu'ont-ils apporté? Enfin, il faut peut-être préciser à nos auditeurs le rôle qu'ils ont joué sur Montalembert.
le rôle qu'ils ont eu auprès de Montalembert, eh bien, l'amenait, l'a fasciné, parce que c'était un homme extraordinairement intelligent. Il ne faut pas oublier que l'amenait, avant d'être excommunié et de haïr le pape, il avait même dit, je crois, de Grégoire XVI, qu'il était fabuleusement bête. Et il parlait de lui-même en disant, si un jour j'étais pape, vous voyez. Mais au début, il a été le soutien d'une monarchie très légitimiste. Et puis, il a évolué peu à peu, pris en partie par l'orgueil, mais c'était un homme tout à fait fascinant. Et alors, il a enrôlé dans sa cohorte tout un tas de jeunes gens, dont certains sont devenus évêques, comme Monseigneur de Salinis, dont certains, comme Lacordaire, se sont assez vite méfiés de l'emprise qu'il avait sur eux. Et quant à Montalembert lui-même, il a vu tout de suite le parti qu'il pourrait en tirer. Ce jeune homme qui allait être pair, qui faisait partie de la haute aristocratie française, qui savait toutes les langues, qui avait ses entrées partout. Parce que justement, en présentant mon livre, vous avez accentué, appuyé, et je le comprends, sur le fait que Montalembert est très oublié. Mais moi, en travaillant sur ce livre, je soutiens que Montalembert est un des plus grands hommes du 19e, et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir fait ce livre. C'est un homme qui a été essentiel et qui a marqué son siècle. Et il y a des tas de gens dont on parle et dont on reparle éternellement qui étaient beaucoup moins importants que lui. Et c'est ce qui est amusant dans mon métier, c'est de pouvoir découvrir des êtres.
Alors, c'est avec Lacordaire et Lamennais que Charles de Montalembert va se lancer dans une aventure très brève, puisqu'ils vont essayer d'ouvrir une école libre,
ils vont ouvrir
gratuite,
ils vont fonder un journal et ils vont partir se jeter aux pieds du Saint-Père pour le supplier d'accepter le côté très ouvert et très libéral de leur journal, parce que le Saint-Père, entouré par la curie romaine, se méfie un peu de ces jeunes gens très emballés qui avancent un peu violemment dans la vie et qui sont prêts à tout soulever et tout changer. Et en fait, Lamennais avait déjà commencé son virage très violent vers la désobéissance. Et dans l'Église, l'Église aime avancer lentement, puisqu'elle se pense mue par le Saint-Esprit. Donc, elle ne prend de décision qu'après mûre réflexion et elle ne procède pas par à-coup. Et Montalembert est arrivé avec Lamennais qui voulait tout secouer. Et Lamennais comptait beaucoup sur Montalembert qui, à Rome, avait toutes les portes qui lui étaient ouvertes et il s'en servait. Mais en fait, très vite, on a fait comprendre à Lamennais qu'il ferait mieux de rentrer à Paris et qu'on n'avait pas besoin de le voir. Et à ce moment-là, Montalembert a dit « je le suis ». On maltraite un homme de génie qui a tout compris et qui va révolutionner l'Europe. Mais Lacordaire, plus prudent, s'est démis. Et alors, il y a eu toute une période pendant laquelle Montalembert a erré en Allemagne à la suite de Lamennais. Et avant de peu à peu comprendre que cet homme atrabilaire et violent n'allait peut-être pas être celui qu'il cherchait, parce qu'il le considérait comme un père de remplacement, son père étant mort. Il était prêt à faire n'importe quoi pour lui.
Madame Castillon du Perron, je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission.
Comment sont réalisées les épées d'académiciens? Pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ces pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie de Marguerite Castillon du Perron. Nous avons quitté un Charles de Montalembert animé d'un idéal de changement politique et religieux. Voyant de plus près ses combats, entre autres celui en faveur des peuples opprimés, il décide de défendre la cause polonaise, puis la Belgique. Pourquoi ?
À la Belgique, oui. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je dois vous dire que je ne m'étais pas spécialement penchée sur le sort de la Belgique. Alors d'abord, il épouse une Mérode. Alors, le père de sa femme, Félix de Mérode, avait failli être roi de Belgique. On lui avait proposé d'être roi. Et puis, il avait décliné cet honneur, je pense en partie parce que c'était un homme très modeste. Et puis, qu'il avait peut-être pensé que politiquement, il n'apporterait pas à ce nouveau pays ce qui était souhaitable. Et il avait était tout à fait favorable à l'élection de Léopold Ier. Et alors, Léopold Ier, d'ailleurs, que Félix de Mérode révérait, n'a pas toujours été parfait avec lui. Et Montalembert le souligne à plusieurs reprises dans sa vie en disant « Mon beau-père a tout fait et le roi Léopold le considère absolument comme un simple serviteur, alors que sans lui, ça ne se passerait pas du tout de la même manière, parce que les Mérodes étaient traités en Belgique absolument comme des souverains. » Et je me suis beaucoup amusée à décrire le mariage de Montalembert en Belgique, où il a été accueilli, mais absolument, moi je ne peux pas vous dire, par toute la jeunesse et tout le pays, on faisait des assiettes avec son portrait dessus, il y avait des théâtres partout, on apportait des agneaux de tous les coins du pays, ça a été un mariage absolument fabuleux.
Mariage qui pourtant, du côté de Montalembert, avait fait l'objet d'un long choix. D'un long chemin.
Et mariage dont il était d'autant plus ravi que la princesse Lubomirska lui avait refusé sa fille qui venait d'épouser le prince de ligne. Et il était tout à fait content, outre le fait qu'il était tout de même vraiment tombé amoureux de sa femme, il était tout à fait content de damer le pion au Lubomirska en disant « Mais vous voyez, j'ai fait aussi bien, c'était pas la peine de me maltraiter comme ça ».
Donc finalement, en 1835, Charles de Montalembert entre à la Chambre des Pairs. En 1836, il se marie avec Anna de Mérode. On devrait avoir un homme comblé. Et est-ce dans le caractère de Charles de Montalembert? On a l'impression que pas vraiment, à vous lire.
Ah voilà une bonne question. C'était pourtant pas un homme basiquement angoissé, mais il a toujours été un indépendant et un solitaire parce que, même dans ses rapports, les problèmes qui le hantaient, c'était son grand amour, c'était l'Église. Alors sa relation avec le Vatican et la papauté et les rapports de l'Église avec la France ne l'ont pas toujours comblé. Et alors avec les différents évêques, il y avait des tendances absolument variées. J'ai tout de même pas voulu nommer par trop d'évêques, mais quand on voit, et toute cette partie-là est à écouter justement chez les mots, toutes ces correspondances avec tout le clergé français, la manière dont il veut les secouer pour arriver à retrouver une espèce d'union et d'équilibre et favoriser le retour de la religion en France, qui était dans un état de déchristianisation terrible. On lit des pages de lui où il raconte ce qui se passait dans les églises et dans les lycées. Enfin, on jouait aux billes avec le Saint-Sacrement. On n'osait pas se dire catholique quand on était un élève de première ou de philosophie. La philosophie, on se cachait d'être catholique. On était ridicule quand on l'était. Nous n'imaginons pas aujourd'hui comment ça se passait à ce moment-là. Bon. Alors, il y avait des tendances variées dans l'Église et lui avait pour idée de fonder un parti catholique français. Et il y est pratiquement arrivé.
Et il y est pratiquement arrivé.
Ça a été très important. Et il y est arrivé, il y est accédé. Il a pensé que le journalisme serait la bonne voie. Et là, il a été un précurseur. Il a compris, on ne peut pas écrire des livres de 3000 pages, il a compris l'impact qu'auraient les journaux et comment il fallait les diffuser. Et il a absolument quadriller la France d'émissaires avec, dans chaque province, il avait des correspondants. Et comme on lisait, on ne vendait pas le journaux dans des kiosques, mais on lisait dans des clubs. Alors il y avait les notables de chaque petite ville qui se réunissaient pour lire un journal. Donc c'était très important pour lui d'avoir de bons journaux. Et il y a laissé une partie de sa fortune parce qu'il a par deux fois fondé des journaux. Et c'est à cette époque-là qu'il a rencontré Louis Veuillot, dont vous allez me parler probablement.
Donc, surtout, les années 1840 sont celles où il va s'engager très fortement pour donc, la cause de la liberté de l'enseignement.
Absolument.
Donc, en 1844, il y a la loi Villemain, loi qui est contre toutes les menées tentées par Montalembert, qui s'oppose totalement, justement.
Oui, car Villemain, à ce moment-là, soutient violemment l'université. Et alors, Villemain, que Montalembert aimait beaucoup, ils ont eu des relations chaotiques. Villemain, qui est un personnage qui est très amusant, bon, si je puis dire, parce qu'il était d'une culture fabuleuse et d'une laideur absolument simiesque. Et je ne sais pas si vous avez lu un passage où il voulait absolument se marier et toutes les jeunes filles le repoussaient parce qu'il était grotesque. Mais il avait énormément d'esprit et il était fidèle en amitié, mais il était résolument université à ce moment-là. Et donc, il s'est battu contre Montalembert. Et Montalembert a pensé que c'était une réponse de la Providence. Il est subitement devenu fou. Et sa folie, à ce moment-là, a un petit peu arrêté les choses. D'autre part, le roi Louis-Philippe s'est rendu compte qu'il y avait un parti catholique assez puissant en France. C'était peu avant la fin de son règne. Et il s'est dit, il faut tout de même que j'y aille de manière mesurée et que je fasse quelques efforts du côté de l'enseignement libre ou que je les laisse exister. C'est ça. Parce qu'à l'époque, l'enseignement libre était de très mauvaise qualité puisque tout avait disparu. Il faut se rendre compte que tous les ordres, il n'y avait plus aucun ordre religieux en France. Alors, Lacordaire était en train de recréer les dominicains, les bénédictins renaissaient à Solesmes, d'un autre côté, et les jésuites étaient poursuivis et pourchassés de façon assez violente. Et on sait que Montalembert, qui dans sa jeunesse un peu gauchiste ne les appréciait pas, est devenu un de leurs meilleurs soutiens. Il a beaucoup soutenu le père de Ravignan, et à un moment donné, où il y a eu une loi excluant les jésuites, ils ont été très jésuites, les jésuites, et très malins, comme ils le sont toujours. Ils ont dit, bah, très bien, on s'en va, on ne fait plus rien. Et puis, ils ont refondé ailleurs, dans d'autres endroits, des lieux de conversion. Et alors, la fameuse rue de Sèvres, qui existe toujours aujourd'hui, a été créée à cette époque-là. Les jésuites de la rue de Sèvres, ça date des années 1850.
On a l'impression qu'au lendemain de son engagement, entre autres, qui lui assure un succès tout d'un coup incroyable contre la loi Villemain,
oui.
Là, il fonde quand même un parti catholique. Enfin, il a derrière lui un parti.
Il y a toute une masse de députés à la Chambre qui font passer les... Si on n'a pas leur accord, les lois ne passent pas.
On a l'impression
qu'il a son armée à ce moment-là. Mais malheureusement, révolution de 48... Tout chute, tout tombe et il est désespéré et arrive le prince président.
Alors justement, quelle va être son attitude face au prince président? Parce qu'on le voit finalement rencontrer Louis-Napoléon Bonaparte, que tout le monde prend pour un niais.
On dit le perroquet, on le traite de perroquet lamentable, de triste perroquet.
Donc le 30 octobre 1848, avant son élection à la présidence de la République, Montalembert va le rencontrer, va le trouver pas si niais que ça finalement, voilà. Il va même le soutenir.
Oui, oui, c'est un jeu très drôle parce que Louis-Napoléon s'aperçoit à la chute de Louis-Philippe que le parti catholique existe, que les catholiques représentent une puissance et comme il sait très bien qu'il ne va pas en rester là et qu'il va dominer l'Assemblée et qu'il a tout à fait l'idée de reprendre le pouvoir, Louis-Napoléon se dit, il faut que je ménage ce Montalembert, que je m'en fasse un ami et qu'il m'apporte toutes ses voix. Et je suis persuadée que le plébiscite qu'il a porté à l'Empire est dû en grosse partie à l'action de Montalembert parce qu'il a eu toutes les voix catholiques à cause de lui. Et alors Montalembert, à ce moment-là, ce qui est excusable et normal, d'abord, il le trouve pas si bête qu'il l'avait cru. Ensuite, il le trouve charmant. Ensuite, Louis-Napoléon promet qu'il protégera l'école libre, promet qu'il ne fera rien contre le catholicisme en France. S'engage à Rome, en effet, et protège le pape lors de l'expédition de Rome que l'on connaît bien. Et en plus, ce qui est très flatteur pour Montalembert, le consulte à propos de tout. Et à un moment donné, il y a même un jour où il lui dit « Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous pousseriez vos chances pour prendre le pouvoir ?» Vous vous rappelez? Et Montalembert lui dit « Faites comme le roi Léopold, qui a toujours été attentiste, qui a saisi l'occasion quand elle se présentait, mais qui a été calme le reste du temps et qui a été habile. » Et le jour où le plébiscite est voté et où il devient le prince président, et puis après, quand il devient empereur, Montalembert s'attend à devenir son bras droit. Et il prépare des séries entières de propositions, de réformes à faire, et il s'attend à aller à l'Élysée, il a des rendez-vous, et puis on ne le reçoit pas, et puis on l'écarte peu à peu. Et en fait, Napoléon III, ce qu'on peut très bien imaginer, se dit, cet homme-là, c'est moi qui commande, cet homme-là va me monter dans la main, j'ai envie d'être vraiment libre. Et l'écarte doucement, parce qu'il se dit que Montalembert est beaucoup trop passionné pour pouvoir ménager tous les partis, ce qu'il n'aurait certainement pas fait, comme lui va être habile à le faire. Alors d'un côté, Napoléon III se conduit avec beaucoup d'élégance et de générosité vis-à-vis de tous les évêques les plus mous, qui sont ravis de se voir donner de l'argent, de voir leurs églises réparées, de voir qu'on leur rend leurs tapisseries, etc. Mais de l'autre côté, reste très réticent parce que sa foi était tout ce qu'il y a de modéré.
Et d'ailleurs, Montalembert aura eu vraiment l'impression d'avoir été dupé par Napoléon III.
Ah, tout à fait.
Et va basculer dans l'opposition, puisqu'il va lutter après les dernières années de sa vie contre ce césarisme triomphant.
Il va avoir l'impression d'être tombé sur un nouveau Louis XIV, alors que c'était justement ce qu'il ne voulait pas. Et alors, il va complètement basculer. Et même Napoléon III va faire quelques efforts. On lui aurait bien donné une ambassade en Belgique. Mais lui, Montalembert est tellement droit et voit tellement les choses, il ne croit absolument plus à l'Empire. Il est formidablement déçu par Napoléon III. Je ne dirais pas qu'il est injuste, mais je dirais presque. Mais comme pour Montalembert, ce qui compte d'abord, c'est d'arriver à établir une démocratie possible. Il a longuement médité Tocqueville, qui n'était pas un de ses amis intimes, mais qu'il a beaucoup lu. Mais il adhère tout à fait à la pensée de Tocqueville et il voit les dangers de la démocratie. Et il pense que tous ces dangers, on va les encourir et on va les vivre. Et il les annote peu à peu. Et il voit quelle folie de mœurs on va arriver, quelle désintégration, je cherchais ce mot de désintégration.
Alors le temps passe vite, donc nous arrivons déjà au terme de notre émission, nous n'avons pas le temps de tout évoquer, mais je voudrais quand même, nous sommes au micro de Canal Académie, évoquer l'élection de Montalembert à l'Académie française justement.
Mais l'Académie française a été justement, sous l'Empire, le foyer de l'opposition. Et Montalembert, qui a été le président de l'Académie française, a beaucoup utilisé les forces que représentait l'Académie, la force politique que représentait l'Académie à cette époque. Quand il a été élu, par exemple, au siège de Droz, un homme charmant, très oublié aujourd'hui, qui avait écrit un livre sur la Révolution de 89, eh bien Montalembert ne s'est pas privé, en analysant et en faisant l'éloge de Droz, d'expliquer tout le mal que la Révolution de 89 avait fait à la France et d'évoquer tout ce qui risquait de se passer si Napoléon III reprenait le flambeau ou gardait les acquis de cette Révolution, certains acquis qui lui paraissaient malheureux. Parce qu'il y a certains acquis de la Révolution de 89 que Montalembert jugeait souhaitable et aurait voulu garder, mais d'autres qui lui paraissaient très nuisibles.
Alors Montalembert décède quelques mois avant la chute de l'Empire, donc il n'insistera pas à la chute de Napoléon III. Oui. Avez-vous quelque chose de particulier à rajouter pour conclure cette émission ?
Pas vraiment, sinon que nous avons surtout parlé de l'homme politique et comme vous le disiez tout à l'heure, sa vie sentimentale et personnelle, et c'est quand même celle d'un héros romantique et tourmenté. Moi, j'ai beaucoup aimé raconter cette vie d'un homme au 19e siècle que je trouve absolument.
C'est vrai que nous n'avons pas évoqué.
La période de son mariage m'a paru charmante.
Son mariage, ses relations avec Hortense Taillère,
oui.
Même
avec le salon politique d'Hortense Taillère, qui était la fille du général Bertrand et qui a été son égérie et au point de vue politique et pour laquelle il a eu une très grande admiration et un grand attachement. Et ça, c'est une part très intéressante de sa vie.
Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Ils ont encore beaucoup de choses à découvrir sur Montalembert. Merci beaucoup, Marguerite Castillon-Duperron, d'être venue dans notre studio de Canal Académie. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Montalembert et l'Europe de son temps, aux éditions François-Xavier de Guibert. Au revoir à tous et à toutes.